Bonjour, la population du Haut-Touélé dans la province orientale s'investit au désenclavement de cette partie de la République démocratique du Congo. On doit rouvrir la voie ferrée de plus de 1000 km de longueur, un tronçon de 300 km reliant Bouta et Bumba dans la province de l'Équateur a déjà été dégagé. C'est un camion posé sur les rails par les chemins de fer des Ouélé qui assure le transport des marchandises. Et puis toujours dans le domaine du transport, cette fois-ci dans les airs, lorsque on atterrit sur les aéroports à République démocratique du Congo, on peut constater qu'il y a des failles par-ci, par-là. En tout cas, nos aéroports doivent être réhabilités, principalement les pistes d'atterrissage et de décollage. Une délégation de l'OACI, Organisation de l'Aviation Civile Internationale, en collaboration avec la MONUC et les autorités congolaises, la RVA notamment et l'aviation civile, sont à pied d'œuvre pour matérialiser ce projet. Et puis, Kinshasa connaît déjà un nouveau marché. Ce nouveau marché est maintenant opérationnel. Cette commune urbano-rurale de Kinshasa a un marché moderne, une première de ce genre depuis très, très, très longtemps. Nous nous rendrons dans ce marché qui est l'œuvre d'un cofinancement du Bureau central de coordination de la Banque mondiale et de la coopération belge. On observe une vague de changements de nom dans un tribunal de paix à Kananga. Comment les sociologues expliquent-ils cette vague de changement de nom? Et au point de vue de la loi qui régit la famille, c'est le code de la famille, dans quelles conditions peut-on changer le nom? Voilà les sujets que nous vous proposons aujourd'hui pour le magazine Okapi Action. Des réactions, des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Écrivez-nous à action@radiookapi.net ou appelez directement au 081 890 68 90 si vous nous appelez de la République. République démocratique du Congo, faites le 00 243 81 890 68 90 si vous nous suivez en direct dans un coin du monde parce que vous êtes branché sur internet. Rappelle que vous pouvez nous écouter sur notre site internet en direct sur les www.radiookapi.net.
Okapi. Okapi à Kinshasa sur 103.5 FM.
Nous partons de Kinshasa pour joindre d'autres villes de la République démocratique du Congo et on va commencer par cette nouvelle qui concerne des habitants de la partie nord de la République démocratique du Congo. En effet, les habitants du Haut-Ouélé, des Ouélé si vous voulez, dans la province orientale, s'investissent dans les désenclavements de leur région par la rouverture de la voie ferrée d'une longueur de plus de 1000 km, kilomètres. Kirili Bouta et Bumba, dans la province de l'Équateur, a déjà été dégagé. C'est un camion posé sur les rails par les chemins de fer des Ouélé qui assure le transport des marchandises. Nous en parlons avec Aliana Alipanagama qui s'est rendue tout récemment dans la région. Aliana Alipanagama, bonjour.
Oui, bonjour Walter et bonjour aux auditeurs.
Oui, la première question qu'on voudrait savoir, nous parlons aujourd'hui d'une réhabilitation et d'une rouverture. Pouvez-vous nous rappeler depuis quand ce chemin de fer n'a pas été opérationnel?
Oui, Walter, comme vous le savez, avec tout ce qu'on a connu dans le pays avec les guerres, cela fait plus de 5 ans que le chemin de fer des Ouélé, qu'on appelle CFU, n'est plus opérationnel. Et vous savez, Walter, les industriels ainsi que d'autres opérateurs économiques du haut et du bas Ouélé qui dépendaient de cette voie ne peuvent plus actuellement importer ni exporter leurs produits. Toutes les activités économiques donc de la région sont vraiment aux arrêts. Et aujourd'hui même, pour sortir de cet enclavement, la population, en commençant d'abord de ceux du Bas-Ouélé et du Bumba dans la province de l'Équateur, avec le moyen des bords sans financement, cette population a réussi à dégager les tronçons qui partent des Bumba jusqu'à Bouta, passant par Aketi, long de plus de 300 kilomètres. Et écoutons au moins cet usager de cette voie qui explique.
Vu les difficultés dans lesquelles nous vivons, surtout pour l'évacuation des produits agricoles et la réception des produits manufacturés. On a fait des efforts avec la population, on a essayé de dégager tant bien que mal afin de faire passer ce petit camion-rail pour nous ramener un peu de marchandises. L'initiative est locale. Jusque-là, on n'a pas encore eu un financement extérieur ni une quelconque aide.
Et voilà quelques usagers de cette voie ferrée. Dites-nous, Aliana, qu'est-ce qui manque pour que cette initiative puisse se prolonger jusqu'à Issiro, par exemple, dans le Haut-Ouélé?
Oui, Walter, il reste encore beaucoup à faire, comme vous l'avez constaté, parce que c'est plus de 1000 kilomètres. Mm-hmm. Bon, il faut complètement désenclaver la voie pour atteindre Mungwerin, c'est le terminus, et là, on doit passer par Issiro, dans le Haut-Ouélé. Même aujourd'hui, si les travaux de restauration des voies avancent tant bien que mal, le chemin de fer des Ouélé ne dispose d'aucune locomotive. Joseph Gambo, qui est assistant à la direction générale des chemins de fer des Ouélé, explique.
Nous n'avons pas de locomotive. Les rails, ce n'est pas les camions-rails. Les rails, c'est la locomotive. Pour le moment, nous avons une locomotive Itachi, qu'on peut mettre un nouveau moteur. La carcasse est là, mais nous demandons. Nous avons aussi la coquerie qui peut tracter au moins 100 tonnes. Là aussi, il faut un moteur. On n'a pas de wagon, donc de matériel tractant, il n'y en a pas. Le peu que nous avons ici, vraiment, ce n'est pas opérationnel, on doit tout arranger. Bon, l'État peut nous aider avec des locomotives, des pièces de rechange, des wagons. Pour le moment, nous sommes incapables d'atteindre zéro. Bon, nous manquons d'investissement, donc on n'a pas d'argent.
Alors, on vient d'entendre Joseph Gambo, assistant à la direction générale des chemins de fer des Ouélé, mais dites-nous, Aliana, est-ce que si la voie est complètement dégagée, jusqu'à Issiro par exemple, est-ce que ce camion rail pourra atteindre Issiro, même si pour le moment il n'y a pas de locomotive?
Oui, cela est possible pour que les camions rails arrivent à Issiro. Certainement, ça va prendre un peu beaucoup de temps. Et c'est ça les soucis des opérateurs économiques et d'autres usagers de cette voie ferrée. Mais selon ces mêmes usagers, il y a des obstacles majeurs sur ce tronçon qui part de Bouta jusqu'à Mungwerin en passant par Issiro. Et là, ça demande à toi des gros moyens, comme explique encore cet usager que nous avons pu rencontrer sur place à Bouta.
Bon, pour cette voie-là, nous demandons l'intervention du gouvernement plus précisément, parce que nous, la population à notre niveau, ne sommes pas capables de faire ça, c'est-à-dire la réparation du pont Ndoli. C'est ce qui enclave la pierre d'achoppe. Il faudrait qu'on arrange ça pour que les Camerounais puissent dépasser le niveau de Bouta et aller jusqu'à Andoma, voire même ici. Vous savez que dans les temps, il y avait de très grandes entreprises à Issiro, il y avait de grandes plantations de café dont les produits passaient par les rails et ces grandes entreprises recevaient des produits de première nécessité par la soude caustique, par exemple, l'huile, le malt, le sucre. Ça.
Voilà autant de choses que les gens de ce côté-là, au-delà du terminus actuel, malgré lui, du camion rail. Il y en a peut-être une dernière question de précision. Quelle est la capacité de ce camion rail et quel est son itinéraire actuel?
Oui, vous voyez que c'est un peu ridicule de voir un camion posé sur rail en voyant à l'œil nu, mais ça ne peut pas dépasser 7 tonnes. Et c'est ce camion rail-là, ce camion rail qui fait qui Bumba et jusqu'à Bouta et qui passe par Akéti. Si vous faites comparativement avec une locomotive, comme venait nous expliquer l'assistant de la direction générale, que la coquerille, c'est une locomotive qui est capable de tracter 100 tonnes et comparer 100 tonnes avec 7 tonnes, vraiment, c'est tellement insignifiant.
Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est plutôt l'ingéniosité des habitants de ce côté-là qui, faute des locomotives, ont transformé un camion qu'ils ont posé sur les rails et qui essaie un temps soit peu quand même de déplacer 7 tonnes. S'il n'y avait pas cette ingéniosité, il y aurait 0 tonne. Il vaut mieux un que 0 tuna, non?
Oui, absolument. C'est justement ça. Elles sont des initiatives vraiment à encourager, à voir, parce que n'eût été cela à Bouta, par exemple, vraiment enclavé, parce que c'était l'unique voie avec des marchandises qui venaient de Kinshasa, avec de gros bateaux, et c'est déchargé à partir des Bumba, et des Bumba, le train était facilement acheminé, 2-3 locomotives, 600 tonnes par locomotive, vous voyez, 200 tonnes par semaine, déjà, on peut ravitailler tout le reste de la région et des Ouélé à un temps record.
Mais Alien, nous aurons un invité tout à l'heure qui va nous donner un peu plus de détails à ce sujet, non?
Et absolument, oui, parce que vous voyez, du côté Isiro, on ne sait pas qu'est-ce que pensent les habitants du côté du Haut-Ouélé. Ils ont les mêmes initiatives comme du côté du Bas-Ouélé. Je pense qu'on ne pourra pas croiser les bras et attendre des gros financements, attendre l'État.
Très bien. Aliana, merci beaucoup de nous avoir amené dans cette zone-là que l'on ne couvre pas très régulièrement et d'avoir fait découvrir à nos auditeurs une initiative, un camion sur les rails qui fait le travail d'une locomotive. C'est franchement original. Merci encore une fois et on vous souhaite de passer une excellente journée à Kisangani, Aliana.
Oui, merci Walter et merci à tous les auditeurs.
Au revoir. Ok, réaction, le premier sujet de ce magazine aujourd'hui, nous sommes à plein cœur sur les rails des Ouélés, dans les Hauts et les Bas d'Ouélés. C'est un chemin de fer qui relie la province de l'Équateur à la province orientale. Au cœur de cette activité, d'abord le fait que ce chemin de fer n'est plus opérationnel depuis plusieurs années, les initiatives locales, faute des locomotives, des populations qui ont installé un camion au rail et qui transportent au moins 7 tonnes de marchandises à partir de Bumba. Voilà, on va essayer d'avoir un peu plus de détails tout à l'heure, dans quelques instants, avec le président de la Fédération des entreprises du Congo, le bureau de Isiro. Il s'agit de Monsieur Célestin Dekasia, qu'on aura dans quelques instants. Je rappelle que vous pouvez intervenir et poser vos questions en appelant au 081 890 68 90. Il y a déjà des questions qui arrivent, c'est comme celle de l'honorable Mumbala Charles qui nous appelait de Kinshasa tout à l'heure, qui voudrait savoir comment ces véhicules rail, bon, il veut parler du camion rail, c'est un seul, honorable Mumbala, c'est un camion rail qui fait la navette à partir de Bumba. Comment c'est s'entraîné? Ben, on le saura tout à l'heure. Il ne serait pas possible d'initier les chevaux, les vaches pour les pousser? Oula. Enfin bon, on va poser la question à notre expert qui est dans, enfin, quelqu'un qui fait des opérations, des affaires économiques dans la zone. Monsieur Célestin Dekasia, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Je suis Walter Mulondi, Mbayirindi. Dites-nous, monsieur Célestin Dekasia, vous êtes président de la FEC à Isiro. Des initiatives sont nées du côté Bumba pour mettre un camion rail sur le chemin de fer. Qu'est-ce que vous pensez-vous de cette initiative?
Oui, merci beaucoup pour avoir pensé à nous exceptionnellement. Nous vous remercions, mais l'initiative est bonne. Malheureusement, elle est locale et puis elle est insignifiante en substance. Mais toutefois, c'est une initiative louable puisque vous imaginez, le chemin de fer des Ouélé couvre la Mongala, le Bas-Ouélé, le Haut-Ouélé, le Nord-Kivu et l'Ituri. Il y a plus ou moins une population de 6 millions d'habitants. Et ce chemin de fer, c'était la colonne vertébrale de notre économie. Aujourd'hui, par exemple, si le camion rail peut amener 7 tonnes, c'est en fait 30 fûts de mazout pour Isiro. Mais c'est quelque chose. Mais ça ne suffit pas. Nous avons des projets. Nous n'avons cessé à crier, à demander à toutes les autorités, même les honorables députés qui sont partis de l'Ouélé à Kinshasa, et pour que des solutions propice, viable, puisse être trouvé. On sait trouver. Si le gouvernement veut, ce n'est pas impossible. Actuellement, entretenir la voie du chemin de fer, c'est plus moins cher qu'entretenir la route qui va partir d'ici à Kisangani, ici Bouta, ici Bouya. C'est plus simple. Mais seulement, nous pensons que le gouvernement de la République, franchement, ne veut pas de cette partie de terre où nous vivons. On nous a abandonnés, on nous a sacrifiés.
Ben, on leur posera la question, mais je vous propose cette question d'un député, c'est l'honorable Mumbala Charles, qui voudrait savoir comment le camion rail est traîné. Comment est-ce qu'il roule sur ces rails, ce camion?
Oui, c'est un camion majoriste, j'ai une bonne pensée, puisqu'il y a des épaves ici comme ça. Et puis, qu'on a mis sur le rail, on a mis le moteur, et puis, Après, on tracte un wagon, mais tout au plus ici, ça peut prendre maintenant un tonnage. C'est plus ou moins 12 tonnes, mm-hmm. pas plus que ça.
Écoutez, la sous-question de l'honorable Mumbala Charles, qui se demande s'il ne serait pas possible d'initier des chevaux ou les vaches pour traîner ce camion-rail.
Oui, en fait, c'est tout à fait, ça c'est technique, mais il faut qu'on voie, puisque... si techniquement c'est pas bien fait, ça peut pas aller. Mais je pense que la quantité, la capacité actuelle, elle est tout à fait logique. Aller un peu plus, je crains de faire qu'on en arrive.
Monsieur Célestin de Cassia, parce que vous êtes le président de la Fédération des entreprises du Congo, la section de Isiro, quelle est votre part, vous, si vous voulez, d'effort pour essayer de dégager la voie ferrée Mungbere Isiro-Bouta?
Non, il n'y a pas de problème. Dégager, c'est rien. Nous en avions déjà fait plusieurs fois. Nous dégager, ça nous le faisons, même nous au sein de la FEC, nous intervenons lorsque nous avons intervenu activement à l'époque du président Laura Désiré Kabila, et on a ouvert la voie et la FEC a contribué, nous avons donné les matériels, nous avons ouvert la voie de Mungwere jusqu'à la limite avec les Bazuele. La limite se situe entre Egbunda et Mozaba. C'est plus ou moins 80 km d'Isiro. Et nous pensons que les gens de Bazuele ont fait la même chose. Mais malheureusement, le train n'a pas circulé. Il y a le sérieux problème de volonté et de l'organisation. Puisque les initiatives locales, il y en a. Vraiment, nous avons la population qui habite cette voie et qui vivait de ces chemins de fer. Cette population, elle est morte, mais elle est encore là. Elle est active, elle est à mesure de faire ça. Si on nous demande, il y a une volonté, il y a un appui, il y a une possibilité. Mais nous allons faire ce lobbying-là. Nous ferons ce qu'on appelle le mois des chemins de fer. Nous allons ouvrir la voie. Et quand nous ouvrons la voie, il faut que nous voyons les trains arriver. C'est question de volonté. C'est comme s'il n'y a pas la volonté, on ne veut pas. Puisque s'il y a la volonté, nous vous rassurons, messieurs les journalistes, que nous contribuerons, nous donnerons notre contribution locale. La nôtre, c'est dégager la voie, entretenir la voie. Mais dans cet entretien, il y a des problèmes techniques qui vont se poser. Il y a des ponts. Il y a des ponts entre Bouta et Isiro qu'il faut arranger, qui demandent, sont des ouvrages, qui demandent des histoires, de matériel que nous n'en disposons pas. Mais la terre, le reste, les dégagements, ça, nous l'avons.
Et alors, parce qu'il y a cette bonne volonté auprès des habitants qui sont les premiers bénéficiaires de ce chemin de fer et que vous dites que vous allez le faire, est-ce que vous avez commencé à quel est l'état actuellement, disons, de ce tronçon de chemin de fer? Dis-nous un peu.
Oui, l'état du chemin de fer, l'état du tronçon, là où il y a eu des entretiens effectifs, c'est entre Bouta Bumba. Ça, c'est vrai. De Bumba jusqu'à la limite, de Bouta jusqu'à la limite du Haut-Touélé, je pense que les gens attendent aussi, puisque si on travaille...
Dans l'autre sens, dans votre sens.
Il faut que les trains arrivent. Si ça n'arrive pas, nous habitons la forêt et puis il y a la saison. Et vous voyez, quand on fait un tel travail, 2 mois, il n'y a pas d'activité et ça repousse, c'est la même chose. Oui. Mais nous sommes prêts. Nous attendons un signal, nous sommes prêts. Et nous attendons un signal, s'il y a un signal... Et nous appliquons ce que nous disons le mois des chemins de fer, puisque notre vie en dépend.
Mais monsieur Célestin de Cassia, pourquoi attendre le signal? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire comme nos compatriotes qui sont à Bumba, qui ont mis la main à la charrue, comme on dit, et que les restes peuvent suivre? Pourquoi vous ne faites pas la même chose à partir de Isiro?
Non, mais ils l'ont fait. Si c'est de Bumba et de Bouta en fait, c'est puisque l'autorail arrive à Bouta, il arrive à Bouta, il rentre. Même maintenant, si nous entretenons le chemin, l'autorail n'arrivera pas à Isiro. Il y a des ponts qu'il faut absolument arranger. Et c'est là, ce sont des ouvrages d'art qui demande des moyens colossaux. Ce n'est plus l'initiative locale. Oui. Mais comment l'autorail peut traverser une rivière dont le pont n'est pas arrangé, les fers ne sont pas posés? Oui. Comprenez un peu, c'est ça cette difficulté-là.
Oui, mais monsieur Célestin de Cassia, pour réhabiliter ces ponts-là qui bloquent finalement l'autorail pour atteindre la zone où vous êtes, ça peut coûter à peu près combien?
Oui, mais pour le pont de Bouta, un pont d'Oli, je n'ai pas l'information, mais moi je veux parler d'un pont entre Bunda, Mozaba, et selon les devis, et ce qui a été fait ici, cela demande plus de 180 sacs de ciment. Et le 180 sacs de ciment, et je ne sais pas si vous avez une information, l'idée à Izio, un sac de ciment, ça aussi entre 45 et 50 dollars, puis ça vient par avion. Et bien quand nous aurons ces ciments-là, nous allons utiliser des vélos pour amener là-bas, et puis on va chercher un architecte, un ingénieur, et il y en avait qui a fait de pied plusieurs fois. Il travaillait dans mon bureau, mais finalement il a quitté les milliers. Et on devra chercher quelqu'un d'autre pour exécuter d'abord ce travail. Une fois exécuté, nous allons faire le désherbage et puis amener des moelleaux pour couvrir les horizons. Et après, le trait peut arriver. Mais le problème le plus dur, c'est celui-là de financement qui doit venir de l'extérieur.
Vous avez parlé de quel pont? Le pont Monda?
Le pont, c'est entre Egbunda et Mozaba. Entre Egbunda et Mozaba, il y a eu érosion et puis... vraiment, c'est détruit, ça crée une profondeur énorme de l'eau au niveau des lits du passage des chemins de fer.
Mmh. Donc, on comprend que c'est ce pont-là qui est la grosse épine dans, finalement, le désenclavement de cette partie de la République démocratique du Congo. 180 sacs de ciment, c'est ce que vous avez dit, et au niveau de Isuro, un sac de ciment coûte entre 45 et 50 dollars, alors que Kinshasa, c'est autour des 10 dollars, non? Le sac de ciment ici, c'est autour des 10 dollars américains, le sac. Donc, c'est un appel que vous lancez, hein, M. Célestin de Cassia, pour tous ceux qui sont intéressés à désenclaver Isiro. C'est ça, c'est ce qu'on peut comprendre?
Oui, c'est un appel. Nous ne cessons de lancer ces appels-là. Le ministre de l'Agriculture était de passage ici, bien que ça ne relève pas de lui, mais nous lui avons démontré que pour la survie, si... Une fois ces chemins étaient réhabilités, nous sommes prêts à produire. Hein, la terre est fertile, c'est même un miracle de ce côté. Il n'y a plus de café, mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Et nous attendons également le gouverneur de la province qui est attendu. S'il viendra, nous n'allons pas laisser. Nous avons contacté les FAO, nous avons parlé, nous avons écrit à IRES, nous avons demandé à PNUD, nous avons dit à qui veut nous aider. Et nous ne cessons de lancer des appels comme ça, des SOS, puisque franchement, la vie de la communauté en dépend. Ce n'est plus possible, ce n'est plus une vie.
Je vais soumettre à votre appréciation la réaction de M. César, qui vient de nous appeler de Bounia. Je cite, « Si les ONG internationaux ont ouvert les voies ferrées ailleurs, pourquoi la SNCC ne peut pas s'impliquer comme il l'a fait pour Ubuntu et autres ?» César pense qu'ils sont donc oubliés par le gouvernement, alors que ce sont des voies très importantes pour l'Est. Comment réagissez-vous à ce point de vue de César qui vient de nous appeler de Bounia?
Oui, mais César qui vous appelle de Bounia pour accentuer sur ce que nous disons, nous disons que c'est pas lui, c'est l'Esprit Saint de Dieu, puisque ça confirme ce que nous disons. Nous n'avions pas voulu nous parler de ça, des chemins de fer au Bundu Kisangani et de Lubumbashi Kindu. Mais que l'Esprit Saint de Dieu a fait soulever franchement et César a été utilisé, c'est seulement ça. Et voilà, toutes ces compagnies à l'époque des aérénisations de parti État, c'était des compagnies privées. Après fusionner, ça a fait la SNCZ. Après, on a démembré, on a restitué des compagnies, et c'est alors qu'on va créer ces fuites. Il y a eu même de matériel, il y a eu la rétrocession. Au niveau de Lubumbashi, on devait restituer la part de chemin de fer des Zouélé, comme on a fait pour les autres. Est-ce que c'est fait? Est-ce que ce n'est pas fait? Nous ne savons pas. Mais si c'est fait, nous pensons, nous avons appris que même à Lubumbashi, il y a des matériels pour... C'est fini. Mais alors les organisations, les organismes internationaux qui ont aidé, ils ont transporté même des tracteurs par avion. Mais pourquoi ne pas aider transporter deux moteurs amenés à Bumba pour qu'on mette sur l'Itachi, sur Kokeri, et qu'on nous demande, nous ici, de nous couper en deux pour ouvrir les chemins de fer. Ce sera vraiment, ce sera justice, ce sera aider la communauté. Mais comment on nous laisse comme ça? On fait ailleurs pendant ce temps de la transition, et nous ici, on nous laisse, on met la croix sur nous. Nous sommes en train de penser peut-être que la faute de la rébellion nous incombe, c'est nous vraiment qui avions provoqué la rébellion, et alors une punition particulière à nous, c'est celle de nous laisser comme ça.
Nous avons essayé de joindre le PDG de chemin de fer des Ouélé, mais selon notre confrère Aliana Alipanagama, le PDG reste injoignable puisque apparemment il est encore en brousse, très loin de Bouta. Si nous avions eu le PDG, il nous aurait donné peut-être quelques explications pertinentes à ce sujet. Mais tout ce dont vous pouvez être sûr, cher monsieur Célestin de Kessia et tous ceux qui nous écoutent autour de Siro et dans cette partie de la République démocratique du Congo, c'est que dès que le PDG du chemin de fer des Ouélé sera disponible, on lui posera les questions nécessaires pour qu'il puisse apporter les réponses à tous les auditeurs. Pour l'instant, M. Célestin de Kessia, nous vous remercions beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes le président de la Fédération des entreprises du Congo en poste à Isiro. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces informations et vous souhaite plein succès dans les projets que vous initiez pour désenclaver Isiro.
Merci beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse, merci et bonne année.
Merci beaucoup. Oh là là, bonne année à vous aussi. Hein. Les vœux ont commencé. Vous êtes le premier vraiment à nous souhaiter bonne année. Et c'est la première fois qu'on le dit aux auditeurs. Merci, vous avez eu la primeur, Célestin de Kessia. Au revoir.
Au revoir, à plus tard.
Merci. À plus, merci. Occupation chez vous, pour vous, nous y sommes. Avant de passer à autre chose, laissez-moi vous faire part de cette réaction d'un auditeur de Isiro. C'est Monsieur Tino, parce qu'on nous écoute à Isiro. Nous sommes en FM sur 90.1. à Isiro, effectivement. Et Tino réagit comme suit. Le président de la FEC dit vrai. Ah, il est d'accord avec ce que M. Célestin nous a dit tout à l'heure. Mais il faudrait aussi faire intervenir le responsable du chemin de fer. C'est important. Cher M. Tino, peut-être que quand vous étiez en train de nous appeler, nous pensions la même chose que vous. Nous avons dit qu'on a essayé de joindre le président de la Fédération des chemins de fer des Ouélé, la FCU. Mais on nous a appris qu'il est très loin de Bouta dans la brousse, donc injoignable même sur son téléphone. Et nous avons dit tout à l'heure que dès lors qu'il sera disponible et joignable, nous pourrons lui poser toutes les questions et il y répondra. Merci, cher Tino, d'avoir donné ce point de vue.
Okapi! Okapi à Kinshasa sur 103.5 et femmes.
Kinshasa, la sécurité des passagers et des aéronefs au sol exige des pistes qui répondent aux normes modernes de l'aviation civile. Ceci n'est pas pour le cas pour certaines pistes aéroportuaires de la République démocratique du Congo. Il faut réhabiliter ces pistes aéroportuaires, ces choses qui est en voie, parce que grâce à un financement de la MONUC, des travaux de réhabilitation sont en voie d'exécution pour rendre ces pistes conformes aux normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI, en sigle. C'est donc avec l'assistance technique de l'OACI, mais aussi de l'expertise des techniciens ingénieurs de la Régie des Voies Aériennes, RVA, que ces travaux vont être réalisés. Nous parlons de ce sujet avec Marcel Ngombo. Marcel, bonjour.
Bonjour Walter.
Est-ce que pouvons-nous dire qu'il était vraiment temps d'adapter les pistes aéroportuaires de la République démocratique du Congo aux normes internationales modernes?
C'est vraiment le cas de le dire Walter. Il était temps d'entreprendre des travaux de réhabilitation de ces pistes, car la plupart d'entre elles ont été construites autour des années 1950-1960. À ces jours, elles ont donc dépassé leur durée de vie utile et bien entendu, ne sont plus conformes aux normes internationales, j'allais dire. Il y a des pistes où l'asphalte qui les couvre laisse souvent à désirer et certaines pistes présentent même des nids de poules.
C'est pas faux pour avoir fait quelques aéroports, quelques pistes du pays, on le constate effectivement, et il faut parfois atterrir en douce, et là c'est la dextérité du pilote qui compte au risque de se faire exploser un pneu s'il n'y prend garde. Donc il est difficile dans ces conditions de bien assurer la sécurité des passagers des avions au sol. Ainsi, pour réhabiliter ces pistes, la ONUC ne pouvait se passer de l'expertise de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, Marcel.
En fait, l'OACI est une organisation du système des Nations Unies qui définit et réglemente les normes et les pratiques de l'aviation civile. La RDC est membre de cette organisation et pour rendre la réhabilitation de ces pistes conforme aux standards internationaux, l'assistance technique de cette organisation s'avère indispensable. Et le 7 décembre dernier, à l'occasion de la journée de l'aviation civile internationale, Radio Okapi avait reçu les responsables de ces projets, dont notamment M. Chris O'Brien et M. Gamba Hassan, suivant plutôt M. Chris O'Brien, chef adjoint de l'aviation de la MONUC.
Oui, Monoc a demandé à OSI pour avoir l'assistance technique pour faire l'amélioration de la sécurité de vol ici au Congo en coordination avec Régie Voie Aérienne. Et nous avons les plans pour faire quelque chose avec les pistes ici au Congo pour faire l'amélioration, je répète, de la sécurité de vol. Nous faisons tout ça en coordination avec OSI, l'expertise et avec les Régies Voies Aériennes. Ça, c'est très important. Monsieur Gamba Hassan, il est l'ingénieur principal et le coordinateur d'OACI. Et il a les projets sur sol pour faire la sécurité des pistes et tout cela.
Chris O'Brien était interrogé par notre confrère Claude Kianza. On vient de l'entendre, Chris O'Brien, qui est chef adjoint de l'aviation civile à MONUC, il souligne la présence d'un expert de l'OACI. Marcel, dites-nous, quelles sont les pistes réellement concernées par ces travaux? Qu'est-ce qui sera concrètement fait?
À ce sujet, Walter, je vous laisse suivre M. Gamba Hassan, qui est précisément le coordinateur pour la MONUC de l'OACI.
Je pourrais citer par exemple des interventions importantes qu'on prévoit sur l'aéroport de Bounia, qui est actuellement en processus de sélection d'entrepreneurs. On a aussi le cas de Goma, par exemple, qui a été un peu affecté par le problème de la lave. Donc la MONUC va faire une bretelle d'accès au tarmac qui a été isolé par la lave. Ça aussi, c'est un processus de sélection d'entrepreneurs. On a l'aéroport de Bukavu qui est actuellement presque rendu en Europe pour approbation pour commencer aussi toute la réhabilitation complète de la piste, quelque chose de très substantiel pour donner une capacité portante à la piste. On a également Kalemi qui dans le contrat est déjà octroyé à un entrepreneur congolais qui va commencer de façon imminente. Et beaucoup d'autres travaux qu'on fait à Ndjili, par-ci, par-là, on va peut-être gratter le vieil asphalte, on va rajouter de l'asphalte nouvel sur 5-10 cm, dépendant du type d'avion qu'on prévoit utiliser dans ces pistes-là. Et c'est du gros travail, c'est pas des petites affaires, c'est chacun des projets, c'est à peu près 3, 4, 5, 6, 7 millions de travaux. C'est assez substantiel ce que la MONUC fait via l'OACI. Et tout ça est fait en étroite collaboration avec la RVA.
Gamba Hassan, donc si vous voulez, point focal de l'OACI au niveau de la MONUC, donc des travaux qui se font en étroite collaboration avec la Régie des voies aériennes, qu'il faut le rappeler, s'occupe des infrastructures aéroportuaires. C'est déjà mieux de réhabiliter les pistes aéroportuaires, c'est important, mais il se pose quand même aussi des problèmes, parce qu'il y a d'autres, certains aéroports qui ne sont pas balisés, il y a ce problème de balisage, ou par moment où les points lumineux se sont déjà foutus, qui ne sont pas remplacés, Marcel.
En effet, Walter, il y a également ces problèmes de balisage. Il y a certaines pistes où après 18 heures, il est hasardeux pour un avion de les utiliser parce que les lumières de balisage ne sont pas rassurantes. Heureusement, de ce côté-là aussi, la MONUC compte moderniser ces systèmes, suivant encore une fois le chef adjoint de l'aviation de la MONUC, M. Chris O'Brien.
Au sujet d'un système navigation satellite, nous avons fait les plans pour commencer l'année prochaine avec Régie Voie Aérienne, avec le pays pour faire un bon système. Dans le passé, on a les phares de navigation sur le sol pour faire les vols ici et dans tous les pays. Et maintenant, OSI a accepté un plan d'introduire le système Global Navigation Satellite. Et ça veut dire, au lieu d'utiliser les phares au sol, on utilise les satellites. Ça, c'est le système pour l'avenir. Et nous aurons l'assistance avec OSI. Ça veut dire, il envoie un homme ici d'OSI qui a introduit le système dans 16 pays en Afrique.
Monsieur Chris O'Brien, je rappelle qu'il est le chef adjoint de l'aviation au niveau de la MONUC, donc on comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de très fait par rapport à cela. On aura un peu plus de détails tout à l'heure, hein, dans 5-6 minutes. Marcel, pour l'instant, on vous remercie. On dit aussi merci à notre confrère Claude Chianza qui avait réalisé l'essentiel des interviews, des entretiens avec ces deux experts. Pour l'instant, Marcel, bonne journée. Il y a quelqu'un qui nous a dit des sirops tout à l'heure, bonne année, mais déjà on peut le dire, bonne année Marcel.
Merci aussi.
C'est déjà ça, oui. De la réhabilitation des pistes aéroportuaires en République démocratique du Congo. Des projets sont en cours. Vous avez entendu des précisions même sur les enveloppes déjà dégagées et les marchés qui ont déjà été passés à certaines entreprises en vue de la réhabilitation, des travaux à faire là-dessus. Donc on peut dire que ce n'est plus qu'une question de temps. On peut rappeler que c'est la MONUC qui finance ces travaux de réhabilitation des pistes aéroportuaire avec l'assistance technique de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale OACI et l'expertise des ingénieurs de la Régie des Voies Aériennes RVA. On devrait avoir en principe dans quelques instants le PDG de la Régie des Voies Aériennes pour avoir un peu plus de détails sur l'état d'évolution de ces projets qui ont été annoncés. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ou à quand ça démarre, ça devra finir quand? C'est autant de questions que peut-être vous vous posez, des réactions, des suggestions, compléter cet échange en appelant au 081 890 68 90. Si vous nous appelez de la République démocratique du Congo ou du Congo-Brazzaville, faites le 00 243 81 890 68 90. Si vous nous appelez du reste du monde, ou alors envoyez un point de vue, un message sur action@radiookapi.net. Jusqu'au stade actuel, notre invité n'est pas encore disponible au bout du ligne. Je vais demander à notre confrère Alain Ngoy de nous proposer quelques notes de musique d'ici là qu'on puisse vous apporter l'invité du jour. Nous sommes à quelques jours des grandes fêtes, c'est le genre du jour, Noël, c'est déjà cette ambiance qui est ici. On devrait finir par arriver à lorsque ces pistes aéroportuaires seront complètement réhabilitées. On chanterait comme à l'unisson avec ces gens pour dire que sur nos pistes d'atterrissage, nos pistes aéroportuaires, Hakuna Matata, ça devrait être ça pour sécuriser tout le monde. Et tout le monde donc chanterait à l'unisson, les pilotes atterriraient sans aucune crainte et décolleraient sans problème. On me fait signe que nous avons en ligne finalement un invité. Bonjour, bonjour monsieur.
Oui, bonjour monsieur.
Bon, on me dit, vous êtes le PDG de la RVA, nous parlons de ce projet de réhabilitation de certaines pistes aéroportuaires à travers la RDC avec le financement de la MONUC et la collaboration de l'OACI. Où est-ce qu'on en est avec la mise en œuvre de ces projets?
Bien, effectivement, il y a un programme de réhabilitation de certaines pistes de la RDC sous financement MONUC. Ce programme a connu maintenant un début d'exécution. Il s'agit notamment de pistes de Kalemie, de la piste de Bukavu, de la piste de Bounia.
Oui, dites-nous, où est-ce qu'on en est principalement? On commence quand? Est-ce que ça a déjà commencé?
Bien, disons qu'en ce qui concerne le début des travaux, la piste de Kalemi est celle qui va bénéficier d'abord la première, n'est-ce pas, de l'intervention de nos partenaires. Et le marché, ça, selon les informations que la Monique nous a communiquées, le marché d'exécution des travaux de renforcement de la piste de Kalemi devrait commencer vers le mois de janvier. Je dis bien vers le mois de janvier, mais les dispositions sont déjà en cours, puisque la société qui est chargée de l'exécution de ces travaux est déjà à Kalemi.
Est-ce que vous ne pensez pas quand même que l'aéroport international de Goma serait prioritaire au regard d'abord de son importance et puis des méfaits de la catastrophe naturelle de l'éruption volcanique du Nyiragongo?
Bon, je ne crois pas que l'OACI ait mal apprécié la situation de la Monique. Hein. La piste de Goma, il est vrai que c'est une piste prioritaire, mais les travaux exécutés sur la piste de Goma sont des travaux extrêmement importants. La Monique s'y était déjà penchée, n'est-ce pas, avant, en coordination avec la RVA. Et il se fait que le dossier n'avait pas évolué suffisamment, il a dû être recommencé. Par contre, pour ce qui est de Kalemi, il y a eu une entente et les accords au niveau de la haute hiérarchie de la Monique, et cela a permis de débuter avec la piste de Kalemi et Goma, bien entendu, figure aussi sur le programme.
Mmh. Mais lorsqu'on atterrit à Kisangani, notamment à l'aéroport de Bangoka, je ne sais pas si vous y avez été tout récemment, on constate quand même que les infrastructures aéroportuaires sont très, très délabrées de ce côté-là. Est-ce que Kisangani est inscrit sur la liste, l'aéroport de Bangoka notamment?
Bien, écoutez, si vous parlez de très, très délabré pour les infrastructures d'une façon globale, c'est une qualification un peu exagéré. Et la piste de Kisangani est en parfait état d'exploitation, mais c'est l'aérogare et les bâtiments techniques qui ont été suffisamment endommagés par les guerres, n'est-ce pas, que vous connaissez. Et ça fait que, pour le moment, la priorité, le projet le plus facile à réaliser, c'est d'abord le balisage de la piste de Kisangani-Bangoka. Et pour celui-là, les démarches, non seulement les démarches, mais le processus est déjà entamé, et même le marché est déjà passé à des fournisseurs extérieurs pour procéder au balisage de la piste de Kisangani-Bangoka de façon à permettre les atterrissages et les décollages de nuit.
Dernière question, c'est d'un auditeur de Kalemi, Matezo. Il pense que, il dit ceci, je cite, « Nous ne voulons pas une réhabilitation, mais plutôt des aéroports internationaux. C'est plus profitable qu'une simple réhabilitation. » Comment réagissez-vous?
Bon, je crois que, vous savez, les pistes dont nous parlons pour le moment, ce sont les pistes sur lesquelles la Monique est disposée à intervenir. En ce qui concerne les autres pistes, c'est un vaste programme qui doit être assumé par la RVA et le gouvernement, et avec, bien entendu, le concours des bailleurs de fonds. Mmh. Là, il y a une planification à faire, une priorisation à faire, puisque, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous l'informe, les investissements dans les infrastructures aéroportuaires coûtent très cher. Et le niveau de trafic actuel, n'est-ce pas, dans notre pays, et n'est pas comparable à celui que nous connaissons dans les pays occidentaux, aux États-Unis et consorts.
Voilà.
Parce que les ressources sont limitées.
Ok, monsieur Lungele, je rappelle aux auditeurs que vous êtes actuellement à la tête de la régie des voies aériennes. Nous aurons à creuser davantage ces sujets. Nous vous remercions de vous être prêté à nos questions et à celles de nos auditeurs.
Merci, monsieur le journaliste. Au revoir.
Au revoir. Bien, à la suite de Okapi Action, la deuxième partie, c'est dans quelques instants, nous nous rendrons dans d'autres villes. Ce sera... Eh bien, notamment des réalités quotidiennes, comme nous vous les proposons régulièrement dans ce magazine. Nous irons à Kananga où on a observé une vague de changement de nom. Il y a beaucoup de gens qui viennent au tribunal de paix pour changer leur nom. Pourquoi? Comment ça se passe? On cherchera à voir l'importance du nom dans notre sociologie. Et nous recevrons à ce titre-là un sociologue, c'est un abbé qui nous parlera de cela. Et puis, on y a Kisenso tout à l'heure, Kisenso, qui a maintenant un marché municipal assez intéressant. Et donc, qui se désengave et les gens qui vendaient presque quand même le sol ont maintenant un bon marché. C'est très bien pour la santé publique. On se retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas que vous pouvez intervenir en appelant au 081 890 68 90. On vous retrouve bientôt. La deuxième partie du magazine Okapi Action vient de prendre son envol. On part de Kinshasa, comme encore tout à l'heure. Oui, c'est tout à l'heure on était parti plutôt de Bouta, hein, par rapport à ce chemin de fer où un camion rail fait la navette de tout ceci. Et alors, de Kinshasa pour cette deuxième partie, nous allons rentrer dans une réalité qui se déroule. Oh pardon, j'ai un chat dans la gorge, qui se déroule plutôt à Kinshasa, c'est qu'il y a finalement un marché municipal dans cette partie de la ville de Kinshasa, une première de ce genre depuis très très longtemps. Le nouveau marché, c'est l'œuvre d'un financement du bureau central de coordination BCECO, de la Banque mondiale et de la coopération belge. Cet ouvrage s'inscrit dans les cadres du programme de reconstruction de la ville de Kinshasa, initié par le gouvernorat de Kinshasa. Pour les habitants de ce quartier, ce marché tombe à pic car il va tant soit peu alléger leur souffrance. Je vous propose de suivre le récit et le commentaire de Jolie Malivantou.
Nous sommes dans la commune urbano-rurale de Kinshasa, précisément dans le nouveau marché municipal de la gare. Dans ce marché, les bruits fusent de partout. D'un côté, la musique jaillit des bars environnants. De l'autre côté, on entend le bruit de moulins, des passants, des vendeurs et acheteurs de ce marché, signe de vie pour les habitants de ce quartier. Il faut savoir que ce nouveau marché est le tout premier de ce genre dans l'histoire de Kinshasa. Maza Thompson, l'administrateur du marché.
Dès les années passées, on n'avait pas de marché municipal à Kinshasa. Mais grâce au financement du BCECO et du Fonds social urbain, c'est un marché dit type moderne. Dans les années passées, ils vendaient à même les sols. Ils exposaient leurs biens sur les sols. Et maintenant, avec l'avènement du nouveau bâtiment, le marché, les mamans essaient un peu d'étaler sur les tables les marchés, les premiers types du marché moderne à Kinshasa, c'est celui-ci.
D'une capacité modeste de 300 places, le nouveau marché de cette municipalité est l'œuvre d'un cofinancement du Bureau central de coordination BCECO, de la Banque mondiale et de la coopération technique belge. Il est construit sous forme d'un grand hangar divisé en 5 colonnes ou rangées. Chaque rangée compte à son tour 60 tables et bancs construits en béton. Selon Banza, l'administrateur, ce nouveau marché gardera toujours son image.
Bon, c'est comme à la maison, on maintient la propriété chaque jour. Au courant de la semaine, nous avons une journée spéciale pour les salons au collectif. C'est le vendredi. Nous mobilisons les mamans et les papas vendeurs pour l'entretien du marché. Mais sinon, chaque jour, le marché est maintenu propre.
À part ce marché, le BCECO a également construit des latrines mises à la disposition des usagers du marché et un nouveau bureau du quartier Kinshasa Gare. Maza Thompson nous en parle.
Nous avons un agent de l'État qui est là, qui s'occupe des latrines ici. C'est ça, pratiquement il paye, hein? Il paye 20 francs pour les passages. Pour les nettoyages, c'est le même agent qui s'occupe de cela.
Pour les habitants de cette banlieue de la ville de Kinshasa, la construction de ce marché va tant soit peu apporter un changement dans leur vie.
Ça ne va pas tenir bien. Normalement, le monde de Sali, de ces belles gouvernement, à Sali, c'est un malam. Mais si on est empêché de se faire, on ne va pas dire que c'est un mina. On a quand même un bout de ce que je veux dire. Pour faire, on a un cas de réalité. On a un marché, on a un mois, on a mais pour aller loin, ça va.
Vraiment, tout ça reconnaissant à masse, le gouvernement Sali, côté, tout ça, et c'est qu'il y a boyé. Tout ça, or, il y a un brignon surtout. Quel est le marché, c'est la clientèle comme telle, vraiment. Là, on va découvrir le bisoté.
Nous avons un plateau, ça va bien. Mais si on a un plateau, on va dire que c'est un bisoté. Mais si on a un bisoté, on va dire que c'est un bisoté. Mais si on a un bisoté, on va dire que c'est un bisoté. Tozo utana biloko na mabele siko yo tokomo utana mesa tozo sepela kitoko na ndenge wenzela biso batiele biso na dikolo ante kutozo sepela makasi kote table da table moko share toko tozo mbiki yango share mele place wana mambongo sili biso ndo tozo a tozo suna mambongo te kala mamese kauke kauke po tozo mbiki mamese ante toko tozo mbiki share na batike na manini tozo mona pasi.
Ce n'est pas tout. La commune de Kisenso est dotée d'un nouveau stade bâti sur une superficie de 8000 carrés. Tout comme le marché, ce stade a également une capacité d'accueil de 300 places assises. Toujours dans cette municipalité, on a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un hôpital général de référence non loin du dispensaire d'État. Cependant, certains observateurs soulignent que le plan de cette reconstruction devrait plutôt privilégier le désenclavement de cette municipalité. Car pour eux, à quoi vont servir ces infrastructures dans cette commune où les voies d'accès sont quasi inexistantes?
Et voilà, merci beaucoup Jolie Mbalivoto. Ça fait des choses qui doivent aller de pair, mais déjà une première chose et la plus intéressante, c'est qu'il y a un marché salubre, un marché correct dans lequel les marchands peuvent vaquer à leurs occupations, peuvent vendre des choses dans de bonnes conditions requises. C'est déjà un pari gagné. Il faut aller toujours de l'avant. On n'est jamais arrivé, on apprend tous les jours, on fait mieux. Tous les jours, c'est ce qu'on vient de comprendre à travers ceci. Nous allons avoir des détails dans quelques instants sur l'impact finalement de la réhabilitation de ce marché municipal avec le bourgmestre de la commune de Kinshasa en principe, Monsieur Mbele Nsemi, qui va nous en parler en détail, nous préciser notamment sur cette question de voie d'accès pour que beaucoup de gens puissent atteindre ce marché. Des réactions sur Okapi dans Okapi Action maintenant, faites le 081 896 68 90. Ok, puis action, nous vous avons amené tout à l'heure, grâce à ce reportage de Jolie Malivoto, dans le marché municipal de Kinshasa, un marché qui est une grande première depuis que cette commune existe à Kinshasa. Et ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est, il sera question pour nous de joindre le numéro 1 de cette commune pour parler avec lui de l'impact socio-économique que pourra avoir ce nouveau marché municipal au niveau de Kinshasa. Alors je voudrais avoir des précisions du côté technique, si on a l'invité. Non, pas encore, on me dit que non. Rappelons que quand même cette commune n'avait pas de marché depuis longtemps et que ce qui s'est passé tout récemment, si vous voulez, l'inauguration de ce marché communal, ça a été fait grâce à un financement de la BCECO, de la Banque mondiale, en étroite collaboration évidemment avec la ville de Kinshasa. Les premières réactions que vous avez entendues tout à l'heure des usagers, c'est qu'ils étaient très contents d'avoir reçu finalement un beau marché et qui demandait un peu plus, c'est-à-dire la réhabilitation des voies d'accès à ce marché municipal. Ce que j'ai oublié dans la chaîne de financement, c'est la coopération technique belge qui a mis le paquet pour que ce marché puisse voir le jour. Avant la réhabilitation de ce marché de Kinshasa, ce qui existait, c'était un marché, si vous voulez, fait à la va-vite et qui ne répondait pas aux normes d'hygiène et de santé. On me dit que c'est maintenant possible d'avoir M. Mbele Nsemi. Bonjour M. Mbele. Allô?
Allô, oui.
Bon, j'ai appris tout à l'heure que vous étiez au beach, donc il n'était pas possible de vous joindre. Mais si vous pouvez bouger le moins possible, ne pas vous déplacer parce qu'on risque d'avoir des coupures de signal. Dites-nous, vous êtes le bourgmestre de la commune de Kinshasa, et comment appréciez-vous, si vous voulez, l'érection, l'établissement de ce nouveau marché à Kinshasa?
Bonjour, je vous reçois un peu difficilement, mais je vais essayer un peu de satisfaire votre curiosité. Je suis très heureux de participer à votre émission. Allô?
Oui, allô, je vous entends. Quel est l'impact qu'on peut attendre de ce nouveau marché municipal à Kinshasa?
Oui, l'impact est très, très important sur tous les plans. D'abord sur le plan socio-économique. Vous savez que Kinshasa n'avait pas de marché, n'avait rien. Et avec ce marché, nous avons maintenant la possibilité de commencer à développer une petite économie locale. Bon, donc son impact sur le plan économique, c'est évident. Ça permettra à la commune de dégager un peu de moyens financiers et d'encadrer les petits commerçants et dans l'espoir qu'autour des marchés, d'autres activités plus importantes vont se développer, notamment les chambres froides, le magasin de Migros, tout cela. Ce sont là des unités économiques qui vont participer à l'économie de la commune de taxes importantes. Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan purement social, le marché répond de l'espoir, de la confiance à la population. C'est une cité dortoir, les gens avaient l'habitude tout le temps de sortir pour aller ailleurs. Or, avec ce marché, nous essayons un peu de sédentariser la population locale. Mais nous n'allons gagner tout cela que si nous parvenons effectivement à réhabiliter la route de la savane. C'est-à-dire la route qui longe la voie ferrée, mais de l'autre côté. Et si cette route qui relie Matete, le quartier de Kélé, et qui sait ça. Parce que c'est à côté du marché de Matete. Donc nous aurons en ce moment-là une possibilité de rentabiliser au mieux le marché. Et sur le plan purement humanitaire, vous comprenez, les mamans de Kifenso devaient chaque jour faire plus ou moins 8 km, donc 16 km aller et retour à pied pour venir s'approvisionner à Matete. Donc nous aurons réalisé un triple bénéfice avec ce marché-là.
Mais quelles sont les denrées spécifiques que l'on pourra trouver, que l'on trouve déjà dans ce marché?
Pardon?
Quelles sont les denrées alimentaires ou d'autres articles qui sont spécifiques à Kinshasa?
Bon, il y a des articles un peu communs, mais des articles aussi propres à Kinshasa, notamment par exemple, une pâte. De produits. Particulièrement le tondu de partout à Kinshasa. Vous savez que c'est partout à Kinshasa, on a un petit jardin parcellaire. Donc, on un peu de tondu de caoutchouc. Alors, c'est un tondu tellement apprécié et vous le trouvez pas sur ce marché-là, en dehors des autres articles qui nous viennent d'ailleurs.
Oui, monsieur Mbele Nsemi, on a des problèmes de liaison téléphonique. Si vous m'entendez et si vous m'écoutez, peut-être une dernière question. On souhaite. Non, je pense que c'est.
Vraiment, la
c'est
communication n'est pas très bonne. Si vous voulez répéter la question, s'il vous plaît.
Non, mais c'est à vous de rester stationnaire. Il ne faut pas trop bouger d'abord. Ça, c'est la première observation. Mais si vous m'entendez cette fois-ci, maintenant, on pense qu'il va falloir quand même réhabiliter les voies d'accès vers ce marché qui ne sont pas très praticables, monsieur le bourgmestre.
Vous voulez parler de commerçants?
Les voies d'accès, les routes pour accéder à ce marché ne sont pas très praticables, notamment pour les véhicules et autres. Il va falloir aussi les réhabiliter. Donc bon, voilà. Désolé, monsieur le bourgmestre, nous aurions voulu attendre votre réponse sur cette question spécifique à ce sujet. On vous rappellera évidemment très prochainement pour avoir des détails. Pour l'instant, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. On vous a pris dans l'exercice de vos fonctions. Vous étiez tout à l'heure au BIT. On poursuivra pour chercher à savoir ce que les marchandes et autres mamans maraîchères, parce que c'est principalement ça, du côté des Kinshasa auront bénéficié de ce nouveau marché municipal. Okapi Action, la santé, l'éducation, l'environnement, les droits de l'homme et des femmes, les questions des sociétés, toutes ces réalités vous touchent, toutes ces réalités vous concernent. On en parle tous les jours dans ce magazine avec vous et avec des experts pour être plus proche de vous. Notre mission, nous rapprocher davantage de tous ceux qui écoutent Radio Okapi, aussi loin que les ondes peuvent nous porter. On a observé un curieux phénomène ces derniers temps au tribunal de paix de Katoka dans la ville de Kananga. Nous sommes au Kassai occidental. Le greffier enregistre une vingtaine de dossiers des personnes qui veulent changer de nom. Pour les demandeurs, il est question de remplacer un nom qu'ils considèrent comme porté malheur, selon eux. Nous allons en parler avec plus de détails avec notre consoeur Marie-Chantal Lumba, qui est en direct depuis Kananga. Marie-Chantal, bonjour.
Bonjour Walter, bonjour les auditeurs.
Ils vous ont entendu. Marie Chantal, dites-nous, parce que vous êtes sur place à Kananga, qu'est-ce qui justifie cette vague de requêtes en vue du changement de nom?
Après une petite enquête qu'on a menée au tribunal de paix de Katoka à Kananga, on a pu constater que la plupart des personnes qui veulent changer de nom sont des croyants des églises de réveil. Ils sont partis du principe que le nom caractérise le destin. Et Edmo Balukwete, qui est devenu Edmo Bakenge, reconnaît également qu'il existe d'autres désavantages, mais selon lui, préfère ainsi changer l'orientation de sa vie par la connotation de son nouveau nom. Et je propose de l'écouter, Edmo Lukwete, qui est devenu Edmo Bakenge.
Le fait de changer de nom aujourd'hui, ça va à l'encontre de cette mémoire culturelle, parce que les historiens auront des problèmes. Comment remonter la lignée de tel et de tel, des sociologues, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que vous voulez? Porter tous les destins de ce que l'on a dans le sens du mal ou bien introduire une révolution dans sa vie pour l'orienter dans le sens du bien?
Donc si je comprends bien, c'est une révolution carrément?
C'est une révolution. D'ailleurs, Mobutu l'avait déjà commencé vers les années 73. Il a édicté, non? Il fallait s'indiquer avec les prénoms juifs, Joseph, Désiré, Laura et consort là-bas, Edmond. Il fallait éradiquer ça. C'était une révolution qui avait commencé depuis lors. Et il y avait une loi de 73 qui stipulait qu'il fallait que chaque enfant porte le nom désormais de son père, de son arrière-grand-père pour pouvoir remonter la lignée. Et bien voilà, vers les années 90, le pentecôtisme s'installe très bien dans notre culture et nous fait voir qu'on peut aussi changer le destin de quelqu'un en changeant de nom. Et nos noms authentiques, là, portaient un destin, on a tenté de les changer tout en gardant la culture. La culture n'est pas modifiée, mais on puise toujours dans la culture pour trouver un nom qui oriente le destin.
Voilà, on vient d'entendre Monsieur Bakenge Edmond, anciennement alias Edmond Lukwete. Marie-Chantal Lumba, comment est-ce qu'on réagit au sein des familles sur ces changements de nom?
Bon, pour l'instant, en tout cas, les gens que j'ai pu rencontrer, les avis sont partagés. Certains trouvent que c'est un engagement tout à fait personnel, mais d'autres, surtout les conservateurs, ne le prennent pas du bon côté, en tout cas pas du bon côté du tout. Et je propose d'écouter un parent qui ne le supporte pas du tout.
Je conçois très mal qu'on puisse changer de nom. Une fois qu'on a donné un nom à un enfant, c'est qu'on imprime une certaine signification à ce nom qu'on a donné à un enfant. Et changer le nom après un certain nombre d'années, c'est se renier en quelque sorte. Donc je ne peux pas accepter qu'un enfant qui sort des entrailles de mes entrailles puissent accepter de changer de nom, quelles que soient les conditions dans lesquelles il se trouve. C'est changer une culture et adopter les cultures, les traditions qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas habitué. Donc je vois très mal qu'on puisse accepter et encourager ce genre de choses. Parce qu'en fait, un nom a toujours une signification. On se remémore de certaines choses qu'on a vécues dans sa jeunesse et qu'on veut absolument perpétuer. Donc, il faut nécessairement garder le nom pour toujours se souvenir de ce qu'on a vécu dans une certaine époque.
Et voilà, un point de vue, ça vous concerne aussi, ça nous concerne tous, vous avez un nom, est-ce que vous savez ce que votre nom signifie, pourquoi on vous l'a donné, dans quelles circonstances, mais vous pouvez partager cette expérience, surtout si ça c'est un aspect plutôt culturel et à la fois sociologique, pour enrichir les auditeurs des expériences que vous avez, de la signification des noms, des patronymes que vous portez, c'est un facteur identitaire. Marie-Chantal, parce que on change de nom, on sait très bien que par rapport au droit, le nom c'est un attribut individuel d'une personne. Le droit au nom est reconnu par la Constitution. Que dit la loi spécifiquement sur le changement de son patronyme?
Toute personne a le droit de changer de nom et on peut le faire au tribunal de paix, là où on l'invite. Et au total, après avoir eu j'ai pu constater qu'il faudrait au moins $20 pour pouvoir changer de nom. Et cela peut prendre plusieurs mois, des années, le temps pour les hommes de la loi de vérifier si toutes les conditions sur le plan juridique sont réunies. Comme nous l'a expliqué le président du tribunal de paix de Katoka, il va nous l'expliquer tout juste après. Et pour le président du tribunal de Katoka, il faut d'abord savoir si ce nom est contraire aux bonnes mœurs, comme le dit le code de la famille, s'il revêtit un caractère injurieux, humiliant, provocateur, ou s'il n'est pas tiré dans le patrimoine congolais. Et puis aussi, il faudrait savoir que des peines sont prévues pour ceux qui changent sans passer par l'État, sans passer par la loi. Muyaya Kabwaki, président du tribunal de paix, nous l'explique.
Le nom doit être puisé dans le patrimoine culturel congolais. Alors, s'il a un nom qui est puisé dans un autre patrimoine culturel, il peut venir l'échanger. Et la loi ajoute que ce nom ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs, ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur.
Mais alors, qu'est-ce qui arrivera à celui qui changerait son nom sans passer par la loi? Qu'est-ce qui est prévu?
La loi punit ce fait-là d'une peine de 30 jours et d'une amende aussi.
De 30 jours de prison.
Oui. Et servitude pénale principale. À l'époque, c'était sans haïr. Actuellement, je ne sais pas ce que ça représente.
Sans haïr à l'époque, aujourd'hui, il y a eu un arrêté, je pense, dans ce qui avait été pris pour essayer de faire la parité entre les Makuta, les sans haïr, et la monnaie actuelle, le franc congolais. C'est au niveau des cours et des tribunaux. Bon, là n'est pas la question aujourd'hui. On vient d'entendre finalement les procédures ou les conditions de fond que le juge Muyaya Kabwaki a soulevé tout à l'heure. Nous n'allons pas rester à profondeur dans l'aspect plutôt juridique de la question. On va rentrer tout à l'heure en contact avec un théologien, à la fois sociologue et écrivain, M. l'abbé Lambert Mouseka, qui est auteur d'un ouvrage sur le nom en Afrique et ses influences sur la personne. Avec lui, on aura un peu plus de détails là-dessus. Pour l'instant, Marie-Chantal, merci beaucoup. Une petite question avant qu'on se quitte. Est-ce que vous avez aussi, vous, l'intention d'échanger votre nom, Marie-Chantal?
Non, pas du tout, parce que moi-même, je ne sais même pas ce qu'il signifie, mais jusqu'à présent, je le porte bien, je me sens bien avec mon nom.
Ah, vous ne savez pas ce que signifie Lumba?
Oui, pas du tout.
Ben, j'espère qu'après cet entretien, vous irez poser la question à papa ou à grand-père ou à la grand-mère, qu'ils vous disent ce que signifie Lumba, et prochainement, avant de passer au sujet qu'on traitera avec vous, je vous poserai la première question de savoir que signifie Lumba.
Ok, dès que je saurai, même si c'est ma chanson, mais je préfère rester. Jusqu'à présent, il me porte bonheur.
D'accord, c'est une question de patronymie. Dites, soit dit en passant, parce que je vous ai posé la question, Mulondi signifie, dans ma coutume, quelqu'un qui fait la conciliation lorsqu'il y a un trouble dans le village. Et puis, Irindi, c'est un kinandé qui signifie que faire, dans un perpétuel questionnement, les sens sociologiques et philosophiques de mon nom. Voilà, parce que je vous ai posé la question, moi je sais ce que signifie mon nom. Walter, c'est le prénom chrétien au baptême. Full stop. Marie-Chantal, merci beaucoup. Les auditeurs.
Au revoir, Walter. Au revoir aux auditeurs.
Merci, merci. Les auditeurs peuvent réagir au 081-890-68-90. On se retrouve dans quelques instants. Okapi Action, on va essayer de comprendre le sens du nom et ses influences sur la personne. On regarde cette vague qu'on observe dans un tribunal de paix à Kananga où des gens sont en train de venir changer les noms. Et pour commenter ces phénomènes, nous avons en ligne depuis Kananga le révérend abbé Lambert Mouseka Ntumba. Bonjour monsieur l'abbé.
Bonjour, bonjour, c'est Walter.
Oui, c'est moi-même, Walter Mulondi Mbayirindi.
Bonjour Alter.
Merci beaucoup Monsieur l'abbé. Alors vous êtes théologien, vous êtes sociologue, professeur d'université, vous êtes écrivain aussi et vous êtes l'auteur notamment d'un ouvrage qui porte sur les noms en Afrique et ses influences sur la personne. La première question, d'abord je vais chercher à savoir Mouseka Ntumba, qu'est-ce que ça veut dire Monsieur l'abbé?
Voilà, moi je ne suis pas comme Marie Chantal, je connais parfaitement la signification de mon nom. Oui. Mouseka signifie l'homme dont on s'est moqué. Il va sans dire qu'il ne s'agit pas du bébé qui naissait, mais de l'histoire de ses parents, et nous sommes déjà au cœur du problème. Voilà. Ntumba, c'est un des noms consacrés, stéréotypés, un nom de naissance extraordinaire, selon une certaine manière dont l'enfant est conçu et vient au monde, à moins que ça ne soit un Ntumba. Il n'est pas un Ntumba d'en haut, mais un Ntumba toponymie.
D'accord.
En référence avec un homonyme.
Voilà. Bon, vous avez entendu tout à l'heure les explications sur mes noms, monsieur l'abbé. Je ne veux pas y revenir.
Oui, oui, je l'ai entendu avec plaisir.
Voilà, parfaitement. Alors, vous avez rédigé cet ouvrage sur les noms en Afrique et ses influences sur la personne. Est-ce que le nom peut avoir des influences sur la personne qui le porte?
Walter, je voudrais dire brièvement ces deux petites choses capitales. D'abord, qu'un nom a un sens. On ne fait jamais rien sans lui donner un sens. Et le sens fondamental. Parce qu'il y a différentes catégories de noms. Dans mes études, par exemple, je me suis intéressé au nom des Ewe du Togo. À côté, bien sûr, des noms Luba de ma culture. On y distingue une quinzaine de catégories de noms, tout comme chez les Luba du Kasaï. Vous aurez des noms plus superficiels, comme des noms de plaisanterie, comme des noms de buveurs, des noms de joueurs, etc. Mais vous aurez également des noms qui plongent les racines dans l'être profond de l'homme, des noms identité, qui ne sont pas simplement à ce moment-là une étiquette dans un registre, comme on donnerait un nom à un chien pour le distinguer d'un autre, ou à une bouteille de bière. Un nom identité, c'est le nom qui plonge ses racines dans l'histoire de celui qui impose le nom, en rapport avec son activité, en rapport avec ses croyances religieuses, etc., etc. En ce moment-là, il faut remarquer qu'un tel nom appartient à ce qu'on appelle la puissance et l'efficacité du verbe, de la parole. Nous sommes des cultures de l'oralité où la parole est considérée comme ayant une puissance. En Chiluba, on dit « gi ». La force se trouve dans le « gi ». Et le nom appartient à cette instance de puissance et d'efficacité. Dans ce sens-là, on a parfaitement raison de dire que le nom indique l'identité, indique le programme de vie à la fois de celui qui donne le nom et de celui qui le reçoit. C'est une première observation, le nom a une signification. Une deuxième, si on y arrive, c'est qui a le droit d'imposer le nom? Parce que j'ai entendu parler des changements de nom.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a le droit?
De fantaisie,
est-ce qu'on a le droit?
Principalement de la loi, etc. Et pour moi, c'est encore un problème de philosophie, de culture, de religion, etc. Voilà, Walter.
Voilà. Monsieur l'abbé Lambert, je vais soumettre à votre appréciation la réaction d'un auditeur. Il s'appelle Efambe. Je ne sais pas ce que signifie Efambe, mais bon, peut-être il aurait pu nous dire ce que ça voulait dire. Mais il réagit comme suit. Changer de nom, c'est bien. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils n'auront pas de problème à l'avenir? Surtout quand on a déjà vécu longtemps, c'est en quelque sorte s'oublier. Et ces diplômes, s'ils en ont, et les gens qui les ont connus avant, ils pensent, monsieur Efambe, que les gens qui changent de nom, c'est une triste chose. Et pour quelles raisons changeraient-ils vraiment leur nom? Ils continuent à s'interroger. Comment réagissez-vous à ce point de vue?
Je m'interroge moi aussi, mais je réponds que c'est parce que ces gens se situent à un niveau plutôt superficiel des noms, étiquettes, et que ces gens ne se posent pas la question en profondeur de leur identité, de l'histoire de qui leur a donné le nom, qui a la capacité, la possibilité, le droit de changer son histoire, c'est-à-dire les débuts de son histoire auquel appartient l'imposition du nom par les parents. Personne, ça m'intéresserait d'aller voir, par exemple, du côté de la Bible, parce que beaucoup de nos auditeurs appartiennent au monde religieux.
Oui.
Dès le premier livre de la Genèse, au deuxième chapitre, verset 19, on écrit, après avoir créé les animaux, les oiseaux, etc., Dieu les conduit auprès d'Adam pour qu'il leur donne le nom et chacun devait garder le nom donné par Adam. En d'autres termes, en rapport avec Genèse 1, 28, en d'autres termes, dominer les animaux, les oiseaux, etc. Qui donne le nom est le maître, a le contrôle, domine celui à qui il donne le nom. Donc, ce n'est pas un problème de fantaisie personnelle. Aucun enfant ne se donne lui-même, à lui-même le nom. Il le reçoit. respecter les débuts de mon histoire. Quand il s'agit des noms profonds, il s'agit de noms de plaisanterie, de noms de buveurs, de noms... Ça, c'est des noms étiquettes. Ben, on peut s'adonner à n'importe quelle valse de noms, mais qu'on distingue les niveaux et qu'on ne badine pas avec les niveaux identitaires l'histoire d'un homme.
Voilà. Donc, monsieur l'abbé, on comprend que le nom, c'est un facteur d'identité d'une personne et que c'est important de le garder. On peut comprendre par là que les gens, les parents qui mettent au monde des bébés aujourd'hui doivent bien réfléchir avant de donner le nom. Monsieur l'abbé, merci beaucoup. Je crois qu'on n'est plus à ligne avec vous, mais je suis sûr que vous m'attendez. Merci d'avoir donné toutes ces explications. Chacun devrait apprendre à savoir ce que son nom signifie. Et c'est sur ce chapitre que Okapi Action se termine aujourd'hui. Toute l'équipe se réjouit de la fidélité que vous avez accordée à ce magazine et se réjouit de vous retrouver demain à partir de 9h02, heure de Kinshasa.